Voyage donc cet après-midi au pays des cellules souches. Bienvenue dans ce monde peuplé de cellules capables de réparer ou régénérer un organe ou un tissu endommagé. Certaines de ces cellules sont déjà utilisées en clinique et de nombreux essais sont en cours pour mettre au point de nouveaux protocoles thérapeutiques. Comment fonctionnent ces cellules? Quelles sont leurs promesses? Quels sont les obstacles également aujourd'hui? On en parle avec mes invités dans un instant à quelques heures, donc effectivement du Téléthon. Vos messages et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, une étude sur les risques associés à la consommation de benzodiazépines. Axel Villard, bonjour.
Bonjour, oui Mathieu, les anxiolytiques à base de benzodiazépines sont source d'inquiétude depuis quelques années. Une nouvelle étude française permet d'y voir un peu plus clair sur les risques de démence. On fait le point dans un instant avec nos invités pour la une.
C'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de La Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les cellules souches, dossier donc dans un instant avec mes invités, le professeur d'hématologie Annelise Benasseur-Grisselli et le biologiste Marc Péchanski. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux.
Bonjour.
Marc Péchanski, après 10 ans de recherche sur les cellules souches, est-ce que les promesses sont vraiment tenues dans le domaine de la thérapie basée justement sur ces cellules?
Ah oui, je crois qu'on n'est pas encore évidemment à crier victoire. En revanche, on est chez l'homme. Maintenant, il y a des essais cliniques qui ont commencé. Donc, on sait qu'on arrive à maîtriser en laboratoire suffisamment ces cellules pour pouvoir proposer des essais cliniques et obtenir les autorisations réglementaires.
Quels sont les principaux obstacles encore aujourd'hui?
Je crois que les principaux obstacles, c'est la démonstration de l'efficacité. C'est faire en sorte maintenant que ces cellules qu'on maîtrise bien en laboratoire apparaissent aussi prometteuses en clinique.
Oui. Annelise Benasseur-Grisselli, est-ce que ces cellules peuvent nous permettre de comprendre justement des maladies comme le cancer?
Effectivement, c'est une des approches possibles d'étudier ces cellules pour remodéliser des pathologies tumorales, puisqu'en finalement, une tumeur, c'est une cellule qui s'est reprogrammée de façon pas correcte,
ouais,
avec des anomalies génétiques additionnelles. Et aujourd'hui, l'approche de Shirin Yamanaka, qui nous a confirmé qu'une cellule était plastique, c'est-à-dire qu'elle est capable de retourner dans, ouais, un état embryonnaire, eh bien la cellule cancéreuse fait exactement ce chemin, mais elle le fait mal.
Ouais. On parlait de la plasticité du cerveau il y a quelques jours, on va parler de la plasticité des cellules aussi, du coup, avec vous. Allez, on se retrouve dans un instant avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Faut-il avoir peur des effets secondaires des benzodiazépines, ces médicaments dits anxiolytiques comme Xanax, Lexomil ou Valium, et qui sont largement prescrits chez les personnes âgées, entre autres? C'est la question en tout cas à laquelle vous avez tenté de répondre, Christophe Tsourio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue et épidémiologiste, directeur de recherche à l'INSERM, et votre étude parue hier apporte des informations donc sur le sujet. Avec nous également pour en discuter, Dominique Dupagne, notre médecin généraliste.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Dominique. Un élément important justement à préciser tout de suite, Dominique Dupagne, il y a deux types de benzodiazépines et les résultats de cette étude sont très différents selon justement le type de molécule dont on parle.
Disons qu'il y a une distinction un petit peu arbitraire entre celles qui agissent peu de temps, quelques heures, qui sont éliminées du sang relativement rapidement, et celles qui s'accumulent au-delà d'une journée, qu'on appelle les benzodiazépines à demi-vie longue.
Donc demi-vie courte et demi-vie longue.
Exactement.
Hein. Et quels sont les résultats à prendre en compte, Christophe Tsourio, pour ces deux types de benzodiazépines?
Alors, d'abord, notre étude, et je rappelle que c'est une étude de cohorte sur plus de 8000 personnes âgées que l'on suit maintenant depuis 15 ans, donc c'est tout l'intérêt des études de cohorte, et je me permets de le souligner, c'est de montrer que le fait de prendre des benzodiazépines est associé à un surrisque de démence, une augmentation du risque de démence et principalement de maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas la première fois que c'est dit, il y a déjà eu quelques études, une demi-douzaine environ, qui ont déjà suggéré cette association depuis quelques années. Le fait de nouveau de notre étude, c'est de montrer effectivement que le risque serait beaucoup plus focalisé sur les benzodiazépines à demi-vie longue que sur celles à demi-vie courte.
Alors justement, quelles sont les quantités de risques associées à ces molécules particulières, Christophe Tsourio?
Eh bien, ce qu'on a observé dans cette cohorte, l'étude des trois cités, c'est une augmentation de 60% du risque de démence chez les personnes qui prenaient ces benzodiazépines à demi-vie longue par rapport à celles qui n'en prenaient pas, alors que pour celles à demi-vie courte, il n'y avait pas d'augmentation significative du risque de démence.
C'est justement ça, Dominique Dupagne, qui vous a intéressé dans cette étude.
Ben oui, moi c'est ça que j'ai retenu, parce qu'on lit beaucoup de choses sur les tranquillisants, on aime bien faire peur aux gens, et on avait des données qui étaient, à mon sens, assez contestables, parce que comme l'a fait remarquer le docteur Tsouriau, on est dans un suivi de cohorte, donc on trouve des liens statistiques, mais ces liens statistiques ne sont pas forcément des liens de causalité. Donc on se perd toujours en conjectures, on parlera tout à l'heure des biais qui ont été pris en compte.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, oui, les liens statistiques, Dominique Dupagne?
C'est-à-dire, vous savez, j'appelais ça des stats à la con il y a quelques années dans l'émission, ouais. C'est-à-dire on part d'une constatation statistique, on en tire une relation de cause à effet. Et le docteur Tsouriau est très prudent, il parle bien d'association, ce qui est parfois traduit de façon abusive par une cause. Mm-hmm. Et donc, dans le cas précis, on avait les benzodiazépines qui avaient été justement pointées du doigt comme pouvant favoriser des démences, alors qu'on avait juste un lien statistique. Et là, moi, ce que je retire surtout de cette étude et que je trouve très important, c'est que compte tenu du sérieux, de la prise en compte des biais, des facteurs de confusion, on peut dire que les benzodiazépines courantes, dont on parlera tout à l'heure, c'est de la demi-vie courte, ne sont pas associés à un excès de risque de démence, mmh. et que donc c'est quand même un soulagement pour tous les gens qui sont forcés pour telle ou telle raison de consommer ces produits.
Sauf qu'on a aussi entendu le chiffre de 60% dans le cadre justement de ces molécules à demi-vie longue,
oui,
alors, avec les risques de démence, et là pour le coup...
Encore une fois, comme l'expliquent très prudemment les chercheurs dans leur publication, il y a une suspicion, il y a un doute, mais en aucun cas une certitude. Mais comme on dispose de ces fameuses benzodiazépines à demi-vie courte, les autres, pour lesquelles on a enfin des données qui laissent penser quand même qu'on a une sécurité, on peut traiter les gens facilement avec ces produits, on n'est pas forcé de prendre des demi-vies longues.
Christophe Tsouriau, peut-être voulez-vous répondre sur les biais liés à l'étude statistique ?
Oui, et sur le commentaire qui vient d'être fait. Alors moi, je suis globalement d'accord. Je voudrais quand même amener une note de précaution un peu supplémentaire. D'une part, bien sûr, notre étude, comme n'importe quelle étude, ne répond pas à toutes les questions et ne peut pas répondre à toutes les questions. Et notamment, certaines études antérieures, et notamment celles faites par l'équipe de Bernard Bégaud, avaient été faites sur des durées encore plus longues, sur des bases de données encore plus longues. Et donc, il n'est pas complètement impossible que même les demi-vies courtes, in fine, soient associées à un surrisque de démence. Ce qui est clair dans notre étude, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie différence de signal. D'autre part, on observe quand même, même avec les psychotropes non benzodiazépines, donc les antidépresseurs, là aussi on observe un signal. C'est trop tôt pour inquiéter qui que ce soit, on est peut-être parmi les premiers à le dire, mais ça laisse penser finalement que tous ces médicaments qui vont interagir avec la neurochimie du cerveau pourraient peut-être être facteurs de risque ou faire partie de mécanismes physiopathologiques accélérant le processus de démence.
Donc, alors, moi, j'ai une question à vous poser.
Une prudence globale par rapport à
ça. Oui, enfin, il y a une prudence globale, sauf qu'il y a un message quand même qui est transmis au public, et on sait bien que tout de suite, immédiatement, dans la tête des gens, on va se dire, bah, si je prends ces médicaments, j'ai un risque accru de développer des démences. C'est ça qu'on entend quand même.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que les benzodiazépines à demi-vie longue, de toute façon, sont contre-indiquées chez les personnes âgées.
Donc, ils ne sont pas prescrits.
Elles augmentent le risque de chute, par exemple, et le risque de dépendance. Donc, de toute façon, elles ne devraient plus être prescrites. Donc, je pense que sans affoler la population, en moins, il faut renforcer ce message auprès des personnes âgées, des médecins généralistes, de ne plus du tout les prescrire. Et comme l'a dit la personne qui est intervenue, eh bien, si vraiment il y a une absolue nécessité de prendre quelque chose pour dormir, passez du côté des benzos à demi-vie courte.
Dominique.
Bien sûr.
Dominique Dupagne, quand on est médecin ou quand on est patient et qu'on entend la radio aujourd'hui, comment réagit-on? On va voir son médecin, on lui demande une demi-vie courte, docteur, s'il vous plaît.
Ah bah là, si vous voulez, les gens qui
C'est pas commun d'ailleurs, hein, demander une demi-vie courte à son médecin quand même.
On est là pour informer les gens, et comme le disait le docteur Tsouriau, de toute façon, nous médecins ne devrions plus prescrire que des demi-vies courtes, et on peut très bien se débrouiller avec ces médicaments-là. Je voulais juste répondre sur les psychotropes en général, c'est-à-dire les médicaments qui agissent sur le cerveau. Dans l'étude, sont classés dans les psychotropes, ce qu'on appelle les nootropes, c'est-à-dire les médicaments qui sont censés améliorer le fonctionnement du cerveau. Ce sont des trucs pas très utiles qu'on donne aux gens qui commencent à avoir des petits trous de mémoire et des problèmes pour essayer de les faire aller mieux. Et là, il y a un biais absolument monstrueux. Il est clair que les gens à qui on donne des nootropes parce qu'ils commencent à perdre un peu la tête ont plus de chances de perdre la tête. C'est un peu comme si on disait que les gens qui consultent un cancérologue ont plus de chances de mourir d'un cancer, si vous voulez. Là, il y a des biais qui sont monstrueux.
Christophe Tsouriau.
Oui, alors c'est vrai, et d'ailleurs c'est vrai également du côté des benzodiazépines. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que les personnes qui vont prendre un peu plus, par exemple, d'anxiolytiques, c'est parce qu'ils ont une anxiété particulière liée au début de leur démence. Vous voyez, les symptômes cognitifs de perte de mémoire ne sont pas encore si importants que ça, mais la personne les ressent néanmoins, il y a une anxiété importante, va prendre des benzodiazépines, mais ce n'est pas ça du tout la cause de sa démence. Donc c'est ce qu'on appelle un biais d'indication ou une causalité inverse. Alors c'est vrai aussi pour les psychotropes, et c'est précisément pour ça que dans notre analyse, nous avons fait des analyses extrêmement détaillées, avec une modélisation relativement compliquée, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais en particulier, nous avons vu que cet effet était plus important chez ceux qui précisément n'étaient pas du tout anxieux au moment où ils sont rentrés dans notre étude, ni n'étaient déprimés, ni avaient des troubles du sommeil. L'effet, au contraire, était beaucoup plus fort chez eux. Donc, vraisemblablement, on n'est pas du tout dans le cadre de ce biais d'indication. On ne peut pas complètement l'exclure. C'est le principe des études observationnelles.
Allez, et c'est toute la force de ce travail, c'est d'avoir justement cherché à amenuiser ces biais en faisant des corrections, de les prendre en compte, ce qui n'avait pas été fait dans les précédentes études. Et c'est justement quand on prend en compte l'anxiété ou la dépression qu'on arrive à ne plus trouver de lien significatif entre la prise des benzodiazépines à demi-vie courte et la survenue d'une démence ultérieure.
J'aimerais ajouter que pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient savoir quel type de benzodiazépine ils prennent, on a mis sur la page de l'émission un tableau de l'assurance maladie qui résume médicament par médicament le type.
Dominique Dupin, pour conclure, le message qu'on doit retenir là, de cette étude, c'est quoi, clairement?
Alors, le message de cette étude, c'est il n'y a pas de risque actuellement dans cette très belle étude associée à prendre des benzodiazépines à demi-vie courte quand on en a vraiment besoin. Il faut absolument éviter de prendre des benzodiazépines à demi-vie longue. Et puis, il faut mieux lire les études que les communiqués de l'INSERM qui sont parfois un peu réducteurs et qui ne donnent pas forcément toute l'information intéressante.
Merci Christophe Tsurio pour vos indications suite donc à cette étude. Merci à vous. Dominique Dupin, salut Axel.
À demain, Mathieu.
À demain.
Dans les coulisses de la COP21, avec reporter.net.
Et comme tous les jours, nous repartons donc vers la COP21 avec Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors ça y est, les blocages commencent autour des négociations, visiblement.
Et oui, tout à fait. Les discours des chefs d'État lundi, c'était formidable, c'était beau, tout allait changer. Mais voilà, ils sont repartis, on est rentré dans le quotidien de la négociation et un quotidien où l'impulsion des chefs d'État ne semble pas avoir été très efficace. Au quatrième jour, tout semble dans le marasme. Le texte publié ce matin compte encore 50 pages parsemées d'innombrables crochets. Il y a des dizaines de réunions et la négociation a été éclatée en multiples petits bouts en espérant qu'on réglera les points un par un, mais on n'y arrive pas. Et certains pays font de l'obstruction, notamment l'Arabie Saoudite.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fondamental qui se cache derrière ces blocages, Hervé ?
Si, bien sûr, et ça a été tout à fait exprimé vigoureusement par Nosifo Sakato Diseko, qui est sud-africaine et qui représente très efficacement le groupe G77 plus Chine, c'est-à-dire les pays en développement. Ce qu'a dit en substance Madame Sakato Diseko, c'est que si les pays développés n'avancent pas fortement sur la question du financement, cela menace, et là je cite, cela menace l'issue de la conférence de Paris. Donc elle met vraiment le paquet sur la table. Elle demande, et elle représente les pays du Sud, hein, qui le disent très clairement maintenant, pour avancer, il faut qu'il y ait un vrai engagement des financiers des pays développés, des pays riches, et qu'ils ne posent pas de conditions sur ce financement.
Quelle est la suite du calendrier, Hervé, alors, pour la COP21 ?
Sans doute un petit changement de méthode, moins de discussions éparses. Là, il y avait jusqu'à 70 réunions hier, c'est beaucoup trop, donc on va changer de méthode. La présidence va chercher à faire un texte ramassé qui serait présenté samedi, et texte qui aura quel objet ? Il vient d'être lisible, notamment par les ministres qui vont commencer à arriver lundi et qui vont donner un tour beaucoup plus politique à la négociation politique, c'est-à-dire qu'il va falloir trancher et sortir de tous ces crochets qui nous paralysent.
Merci Hervé Kempf, reporter.net, le magazine de l'écologie, et un dossier complet, évidemment, en ligne gratuitement sur la COP21. À demain Hervé, bonne journée. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une bonne nouvelle pour nous les terriens, l'inversion du champ magnétique n'est pas pour demain, c'est ce que révèle une nouvelle étude du MIT qui contredit plusieurs théories catastrophistes qui prédisaient sa bascule imminente. Le champ magnétique est une sorte de bouclier protecteur qui préserve la Terre des radiations solaires et des phénomènes dangereux de l'espace. Son inversion entraînerait une bascule des pôles nord-sud, une avalanche de catastrophes naturelles et technologiques. Pas d'affolement donc, en constatant que l'intensité du champ magnétique était aujourd'hui bien supérieure à la moyenne des 5 derniers milliards d'années. Les scientifiques ont bon espoir qu'il se stabilise, voire même qu'il se renforce dans les années à venir. Et puis nous sourions davantage sur les photos qu'il y a 100 ans, c'est ce qu'ont démontré des chercheurs américains en analysant plus de 150 000 photos de classe depuis 1905. Après avoir établi un portrait type par décennie, ils ont pu mesurer le degré de la courbure des lèvres grâce à un algorithme de lecture photographique. Et les résultats sont clairs, si après l'invention de la photographie, les étudiants adoptaient plutôt un petit sourire neutre facile à tenir pendant la pause, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, les sourires instantanés sont davantage épanouis, laissant même apparaître leurs dents. La démonstration en photo est disponible sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré. Allez, dossier sur les cellules souches dans un instant avec nos invités juste après Kedili Evans, Hands Up. Bon après-midi.
Seems every time I'm playing, I'm winning. I know it's not only me. And when I'm running, these words keep coming, and all is as it should be. It's such a funny feeling, knowing, not hoping, I'm taking everything I see. And I can handle what you're dealing, keep feeling, I'm living through you for me. So, who do you want me to be?
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Allez, avec un dossier cellules souches aujourd'hui à l'occasion des 10 ans de l'ISTEM, l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques et pour découvrir le potentiel de ces cellules, les pistes thérapeutiques qu'elles permettent déjà de suivre. Annelise Benasseur Griselli, vous êtes professeure d'hématologie, directrice de l'unité INSERM sur les modèles de cellules souches malignes et thérapeutiques. Vous coordonnez l'infrastructure Ingestem au sein de l'hôpital Paul Brousse, l'hôpital de Villejuif, et vous êtes vice-présidente de Vaincre le cancer. Et puis Marc Péchanski, vous êtes biologiste, spécialiste donc de ces cellules souches et directeur scientifique de l'ISTEM, avec les questions des auditeurs qui arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr. Clonage, médecine régénérative, donc les cellules souches font beaucoup parler d'elles maintenant depuis 10 ans. Ce sont des cellules bien particulières. Vous allez donc déjà nous expliquer ce que désigne ce thème de cellules souches. Comment il faut le comprendre, Marc Péchanski, exactement?
Alors, une cellule souche, dans le jargon scientifique, c'est une cellule qui est capable de se multiplier est capable de donner naissance à d'autres moments à une cellule spécialisée. Les cellules souches dont on parle ici, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes, ça c'est du jargon.
Oui.
La plus connue, c'est les cellules souches embryonnaires. Et ces cellules-là, elles possèdent ces deux qualités, donc la capacité de se multiplier et les capacités de se spécialiser de façon illimitée. C'est-à-dire que ce sont les seules cellules immortelles de l'organisme, c'est-à-dire quand on les met en prolifération, elles peuvent continuer à proliférer indéfiniment.
Ouais.
Et on a d'ailleurs dans nos laboratoires, Annelise et moi, des cellules qui proviennent des premières cellules souches embryonnaires qui ont été identifiées en 1998 par des collègues américains. Ils ont fait proliférer ces cellules par milliers de milliards et puis ils les ont distribuées à tous les laboratoires qui en avaient besoin dans le monde. Et c'est comme ça qu'on les a encore maintenant, on s'en sert beaucoup. Et puis en plus, elles ont donc cette autre capacité de spécialisation là encore de façon limitée, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner naissance à n'importe laquelle des cellules de notre organisme.
Donc une sorte de virginité au départ et ensuite de spécialisation
de
la cellule.
Ce sont des cellules qui ne sont visibles chez l'embryon qu'entre 5 jours et demi et 7 jours et demi pendant 48 heures après la fécondation.
Ouais.
Donc effectivement, elles sont à l'origine de tout.
Annelise Benasseur, vous parliez tout à l'heure de plasticité justement des cellules, un terme qu'on entend moins justement pour les cellules.
Oui, donc effectivement aujourd'hui il y a une autre façon d'obtenir des cellules souches pluripotentes capables de tout reconstruire, c'est de partir sur le fait qu'une cellule spécialisée finalement n'est pas si spécialisée que ça parce qu'elle est capable de retourner en arrière. Si tant bien que même, il faut forcer un peu le système.
Pourquoi d'ailleurs ce retour en arrière?
Parce qu'au finalement, on a tous 22 000 gènes, enfin un nombre de gènes bien définis, ils sont tous d'ailleurs connus. Mais quand on est spécialisé, on ferme des verrous et on ne ouvre un certain nombre de programmes que pour faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire un fibroblaste, il est là pour faire son collagène, son élastine. Donc, il a son rôle personnalisé à lui. Et malgré tout, ces gènes sont présents, sauf qu'ils sont fermés. Une chromatine extrêmement fermée. Si vous rouvrez cette chromatine, eh bien, vous êtes capable de réexprimer les gènes qui étaient éteints et jusqu'à réexprimer même les gènes embryonnaires. Et donc, cette possibilité, ce qu'on appelle la plasticité, cette cellule capable de retourner dans un état totalement embryonnaire et refaire cette fois-ci du foie. Donc, à partir d'une fibroblaste qui était finalement capable de faire quelque chose de très précis, on lui fait refaire du foie en repartant sur un état embryonnaire.
Ça paraît tellement simple en vous entendant. Hein. C'est vraiment d'une simplicité enfantine.
Oui,
on refait du foie, voilà.
Exactement.
Par exemple.
C'est un dogme qui a sauté complètement dans la mesure où finalement les premiers travaux qui ont été faits par Gurdon, un Anglais, avec un noyau de grenouille, avaient démontré qu'on pouvait un noyau très très spécialisé dans un ovocyte capable d'être reprogrammé. Et c'est Shiryan Yamanaka, un japonais qui était donc, qui en 2007, enfin 6 d'abord chez la souris, puis 2007 chez l'homme, ayant pas la possibilité de travailler sur les cellules souches embryonnaires aux États-Unis, a décidé de travailler sur des gènes embryonnaires, qu'il a constaté que ces gènes étaient exprimés que chez l'embryon et pas chez l'adulte, et qu'il a eu l'audace de réexprimer de façon forcée ces gènes dans les cellules adultes.
Et on va l'écouter justement, sa voix, et ce qui lui a valu d'ailleurs un prix Nobel quand même, au passage, en 2012.
Beaucoup de gens étaient contre, et beaucoup de gens s'opposent encore à l'utilisation de cellules souches embryonnaires. Parce que cela signifie que nous devons utiliser des embryons humains. Donc je voulais vraiment parvenir à surmonter cet écueil, cet important problème d'éthique.
Pour parvenir à ses fins, l'équipe du professeur Yamanaka a réussi un exploit qui semblait impensable en biologie. Transformer n'importe quelle cellule adulte en cellule souche.
Voici les cellules à partir desquelles nous allons fabriquer des IPS. Ce sont de simples cellules de la peau d'un patient humain.
Les cellules de la peau adulte sont dites différenciées. Elles ne peuvent donc normalement pas revenir en arrière dans leur évolution. Mais la science de l'ADN a fait d'énormes progrès. Et les chercheurs ont découvert les gènes qui sont capables de reprogrammer la cellule. Et après des années de tentatives, ils sont parvenus à trouver le cocktail idéal.
Voilà, découverte évidemment fondamentale de Yamanaka, prix Nobel en 2012. Marc Péchanski, c'est quoi, une sorte de cure de jouvence au fond de la cellule opérée donc par ce chercheur?
Oui, c'est...
De la cellule adulte, il a pu revenir à une cellule embryonnaire?
Oui, je dirais que ça commence par un grand nettoyage. C'est-à-dire que, comme l'a dit Annelise, une cellule spécialisée, c'est une cellule qui a fermé un certain nombre de verrous. Eh bien, tous ces verrous sautent. Et ensuite... Eh bien, il se trouve que du fait de la présence de ces gènes qu'on a introduits dans la cellule pour la forcer à se reprogrammer, elle reprend des capacités qui sont les capacités des cellules souches embryonnaires. Alors, Il y a un bémol à ça, hein, c'est que on est face à un organisme génétiquement modifié. Et cet organisme génétiquement modifié, bah, on est encore en train d'étudier ce qui est vraiment reprogrammé et puis ce qui reste quand même comme une marque de son origine. On sait qu'il y en a, on en a trouvé beaucoup d'ailleurs. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que ces cellules-là peuvent être utilisées ou pas.
C'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir un problème de contrôle justement de ces cellules ou
il y a,
pas
Il y a des problèmes de contrôle.
Sur une dégénérescence en tout cas de la cellule.
Il y a des problèmes de contrôle. Il y a surtout aujourd'hui énormément de gens qui se rendent compte qu'ils ont des difficultés avec ces cellules qui sont un peu des difficultés aléatoires. C'est-à-dire que il y a rien de vraiment stabilisé dans notre connaissance de ces cellules IPS, ce qui fait que on les utilise par exemple pour modéliser des maladies, pour comprendre les mécanismes de maladies.
Donc on est plus dans la recherche fondamentale là encore, on n'est pas du tout dans la clinique là, avec ces cellules là très particulières IPS.
Alors,
hein.
L'équipe japonaise essaye de pousser vers la clinique, mais ils se sont heurtés à un problème. Ils avaient commencé un essai, ils ont réalisé une première transplantation chez un malade, et lorsqu'ils ont voulu faire la deuxième, donc c'est un deuxième malade, ils ont été obligés de s'arrêter parce que cette lignée IPS qu'ils avaient dérivée présentait des mutations dans des oncogènes, donc des gènes du cancer. Ouais. Et du coup, ils ont arrêté et ils ont remis ça un petit peu plus tard.
Donc ça, c'est un des gros risques quand même, Annelise.
Oui, tout à fait. C'est dans la mesure où on reprogramme et que les mécanismes de la reprogrammation ne sont pas encore complètement cernés et exactement maîtrisés. Il y a une sorte de boîte noire encore qui fait que l'aboutissement d'une cellule qui arrive à une cellule pluripotente, est-ce qu'elle est réellement stable, correctement reprogrammée ? C'est tout l'enjeu aujourd'hui.
Donc tout ça est à manipuler avec des pincettes.
Il y a un consortium international qui justement étudie ces questions-là avec des standardisations de production et de définition clairement de ce qui est une bonne IPS d'une mauvaise.
Voilà. Et il y a toujours des questions éthiques autour de ces cellules particulières. On va y revenir dans un instant avec vous. Et les messages, je n'oublie pas les auditeurs qui nous rejoignent en ce moment même, franceinter.fr.
Entends-tu cette musique au fond de toi? Ferme les yeux, c'est magique.
âme mélodique. Nash sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Allez, dossier cellule souche à la veille du Téléthon avec Marc Péchanski, directeur scientifique de l'ISTEM qui fait donc ses 10 ans, Annelise Benasser-Griselli et les messages des auditeurs. Jacques justement demande est-ce que le résultat pratique thérapeutique ne tarde pas un peu à venir pour les cellules souches et pour quelles raisons? Alors on l'évoquait rapidement tout à l'heure, Marc Péchanski. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de promesses hein, au moment justement de l'annonce de la découverte de ces cellules. Sur les enjeux, sur les possibilités thérapeutiques, mais dans le concret des choses.
Dans le concret, je crois que il y a, et c'est quelque chose qu'on dit souvent au moment du Téléthon, une différence entre le temps de la recherche et puis le temps des patients. Et c'est vrai que c'est toujours trop long lorsqu'on est dans les laboratoires, mais on prend des précautions. Il fallait maîtriser vraiment les deux capacités des cellules. Il fallait évidemment les faire proliférer en laboratoire parce qu'on en avait besoin, mais il fallait aussi arrêter cette prolifération parce qu'on ne va pas implanter des cellules qui continuent à proliférer. Puis de l'autre côté, il fallait les spécialiser de façon extrêmement précise pour faire de la thérapie cellulaire. Maintenant, ce que je peux dire à notre auditeur, c'est que les essais cliniques ont commencé et ils ont commencé déjà il y a plusieurs années aux États-Unis puis en Grande-Bretagne. Alors, maintenant, on est en France.
Voilà, dans quel domaine maintenant on maîtrise bien justement ces cellules pour la clinique?
Alors, on maîtrise en laboratoire la spécialisation de ces cellules dans au moins une demi-douzaine de populations différentes. Les essais cliniques ont commencé avec la rétine. Maintenant, il y a des essais qui ont démarré l'année dernière sur le cœur en France, avec Philippe Ménaché, à l'hôpital Georges Pompidou. Et puis, il y a d'autres essais sur le diabète, avec des cellules productrices d'insuline.
Pour le type 1, je crois.
Pour le type 1, absolument, pour celui qui est insulino-dépendant. Ouais. Et puis ensuite, il y a dans le pipeline la maladie de Parkinson, la peau avec les ulcérations cutanées qu'on est en train de préparer à ISTEM pour l'année prochaine.
Annelise Benasser, dans le domaine du cancer, on peut utiliser ces cellules concrètement aussi? Il y a des espoirs là-dessus?
Alors, dans le domaine du cancer, elles vont servir surtout à attaquer les cellules cancéreuses. Ouais. C'est-à-dire qu'une thérapie cellulaire qui existe actuellement, qui n'utilise pas les cellules souches embryonnaires, mais des cellules adultes, on va dire, qui sont produites à partir de cellules hématopoïétique et qu'on construit.
C'est-à-dire hématopoïétique.
C'est des cellules qui sont capables de faire le tissu hématopoïétique du sang, donc des lymphocytes, des granuleux, des polynucléaires et des plaquettes, des globules rouges. Et aujourd'hui, à partir des lymphocytes, on est donc vous avez dû entendre évidemment les essais cliniques d'immunothérapie adoptive qui finalement on modélise des lymphocytes qui sont capables de tuer de façon très active les cellules cancéreuses lorsqu'on leur introduit une protéine particulière qui va guider les lymphocytes vers les cellules cancéreuses pour les tuer spécifiquement.
Pour quel type de cancer en particulier?
Les leucémies aiguës, ça a commencé, et dans les leucémies aiguës, essentiellement lymphoïdes et myéloïdes de l'enfant, où il y a eu un résultat spectaculaire. Ouais. Et donc, c'est une thérapie cellulaire comme une autre.
C'est ça, on pourrait l'imaginer comme autre arme thérapeutique pour d'autres types de cancers aussi?
Ah, bien sûr, on va pouvoir maintenant imaginer, parce qu'on a aussi la stratégie, évidemment, à partir des cellules embryonnaires, c'est de produire ces types cellulaires, mais également, pas que les lymphocytes, mais par exemple des natural killers, qui est un autre type de cellule qui tue.
Natural killer.
Qui est une cellule tueuse naturelle, qui n'a pas besoin de récepteur particulier, mais auquel on peut lui ajouter un certain nombre de guides ou de protéines, puisqu'on a une stratégie de modifier génétiquement ces cellules, puisqu'on a une autre révolution qu'il faut quand même dire aux auditeurs, c'est ce qu'on appelle le genome editing, c'est-à-dire c'est une chirurgie génomique qui va nous servir finalement dans cette cellule, qui sera une cellule.
On va faire de la chirurgie directement sur la cellule?
Oui, on va pouvoir couper un gène, soit lui réintroduire un nouveau gène, soit lui corriger une mutation pour les maladies génétiques, évidemment, qui est un intérêt majeur, mais également pour un nouveau médicament, c'est d'introduire un gène qui va servir à cette cellule qui aura ce gène introduit dans son génome, verser ou déverser au moment où on veut cette molécule. Donc, ça sera une cellule médicament. Et donc, les lymphocytes TCAR, qui sont les lymphocytes modifiés génétiquement, ont été produits par ce génome editing.
Comment réagissent ces cellules souches, donc destinées à tuer les cellules cancéreuses? Donc, une fois qu'elles ont fait leur job, que la cellule cancéreuse est neutralisée, comment elles réagissent, du coup? Qu'est-ce qui se passe?
Une bonne question, c'est qu'elles vont...
On les maîtrise totalement, après?
On peut les maîtriser par un système de gènes suicides. Donc on a aussi
donc il faut remettre ensuite un autre gène.
On peut réintroduire ça aussi, c'est une manière de de faire en sorte d'introduire dans cette cellule qui va les tuer, de lui dire, bon, bah, maintenant tu vas te suicider, tu vas t'éliminer.
Et ça fonctionne.
C'est les choses, les gènes suicides, ça fonctionne.
Marc Pechanski.
Oui, je crois que thérapie génique, thérapie cellulaire, les deux grands bras que l'AFM Téléthon soutient depuis longtemps, sont en train de fusionner, c'est très clair hein, dans ce que Anne-Lise vient de raconter, sont en train de fusionner dans les biothérapies qui sont vraiment une nouvelle façon d'aborder la médecine. Et c'est quelque chose qui vraiment va modifier notre approche dans les années qui viennent.
Vous en parliez tout à l'heure, 2014, octobre, grève de cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines sur une femme de 69 ans.
Ça va. Eh ben dis donc, il y a un an, je montais pas les marches comme ça.
Il y a un an, le cœur de cette retraitée de 69 ans ne battait plus qu'à 20% de ses capacités après deux infarctus. C'est cette opération très novatrice en octobre 2014 qui a changé la vie de la malade. Un pontage couplé à une réparation du cœur. Un patch déposé comme un pansement sur la partie abîmée. Ce patch est composé de cellules souches embryonnaires. Mises en culture, les cellules sont orientées pour devenir des cellules cardiaques. Elles sont des millions, piégées dans un patch de quelques centimètres carrés, déposé sur le cœur de l'opéré. Pour en arriver là, il aura fallu plus de 10 ans de recherche et c'est ce médecin qui a réparé le cœur de la malade.
Ce qui est important, c'est qu'au cours de cette année, on a pu fort heureusement constater qu'il n'y avait aucune complication spécifique à cette greffe cellulaire qu'elle a subie.
Il y a quelques mois, un second patient a été opéré avec cette technique. Lui aussi se porte bien.
Voilà, c'était le professeur Philippe Ménaché de Georges Pompidou qu'on entendait à l'instant. Marc Pechanski, maintenant c'est devenu finalement courant. En un an, là, on peut pratiquer ce type d'intervention facilement?
Non, on n'est pas encore vraiment dans la médecine. Faut se méfier un petit
c'est
peu.
C'est encore à l'état d'essai.
On est dans la phase qui pour nous est extraordinaire, dans laquelle les produits de nos laboratoires sont en train d'entrer chez l'homme, avec les essais cliniques, toutes les précautions, et puis aussi avec les perspectives qui sont différentes maintenant de production de masse. Parce que lorsqu'on travaille en laboratoire, on travaille toujours sur des quantités de cellules relativement réduites, et puis lorsqu'on fait un essai clinique, eh ben on a besoin de produire pour 10, 20, 30 patients. Mais lorsqu'on s'attaque, par exemple, on a parlé du diabète tout à l'heure, à des maladies de ce genre. On a en France presque 500 000 patients qui pourraient bénéficier de ces greffes. Et à ce moment-là, il faut développer de toute autre stratégie, des stratégies de production, des hautes technologies de production robotique.
Dans le cas du diabète de type 1, c'est quoi l'idée? C'est de refabriquer un pancréas? On pourrait imaginer ça?
Alors, la société américaine qui a développé ça sur de très nombreuses années, avec vraiment une recherche fondamentale de très haut niveau, qui s'appelle ViaSight, a développé une approche, c'est pas vraiment un pancréas artificiel, c'est des cellules productrices d'insuline, donc des cellules bêta, des cellules pancréatiques, des îlots, qui sont enfermées dans un petit tube plastique, un polymère, qui est poreux, qui permet aux substances de traverser, mais qui ne permet pas aux cellules de sortir, et qui ne permet pas non plus aux cellules immunitaires du receveur de rentrer. Ce qui fait qu'il y a une protection de la greffe et en même temps, il y a une possibilité de libérer l'insuline. Oui. Et les cellules qui sont à l'intérieur du polymère, ça c'est essentiel pour le diabète, reçoivent les messages, en particulier les taux de glucose qui sont circulants, parce qu'autrement, produire de l'insuline comme ça, ça servirait à rien. Il faut que ça soit contrôlé.
Anne-Lise Benasseur, on a des promesses extraordinaires. C'est un exemple évidemment très concernant pour des milliers de patients.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, on en est à l'étape préclinique et aujourd'hui, chez ces patients dans le diabète, je crois que le premier patient a été injecté. C'est exceptionnel. Effectivement, on peut imaginer tout type maintenant de cellules. Maintenant, c'est la production et le contrôle de cette production. Également, savoir si ces cellules sont réellement fonctionnelles, combien de temps elles vont rester. Si on peut aussi, avant d'aller chez le patient, avoir aussi des modèles d'animaux. Oui. Parce qu'il va falloir aussi tester surtout ces gros animaux, le macaque. Hein, les problèmes de la rétine ont été réellement faits d'abord dans des études chez le primate ou chez le porc également. Donc il va falloir aussi, c'est une des, une des raisons pour lesquelles nous avons eu une infrastructure pour construire ces infrastructures de plateau technique de très haut niveau technique dans InJustem.
Anissa nous envoie ce mail. Je suis atteinte de sclérose en plaques. Je suis allée en Russie pour une greffe cet été de cellules souches. Je récupère ce que j'ai perdu. Les cellules souches m'ont sauvée, dit-elle. Oui, alors, on pratique pas ça en France?
C'est en essai clinique. Je ne sais pas s'il y a des essais en France. Il y a des essais dans différents pays. Il ne s'agit pas des cellules souches pluripotentes dont on est en train de parler. C'est pas des cellules souches embryonnaires. En fait, c'est une espèce de greffe de moelle. De moelle osseuse, comme on en fait déjà depuis plus de 30 ans maintenant, presque 40 ans, pour traiter les patients leucémiques qui ont été irradiés. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise beaucoup mieux. Il se trouve que la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, donc c'est une maladie dans laquelle les cellules de la moelle osseuse du patient attaquent, attaquent les circuits nerveux de la patiente, et là, vraisemblablement, ce qu'elle a eu, mais bon, c'est en trois mots, je peux pas le dire, mais ça serait plutôt une greffe pour reconstituer une moelle osseuse qui ne serait pas atteinte.
Allez, on se retrouve dans un instant, dernière partie de ce dossier sur les cellules souches, donc à la veille du Téléthon, et 36-37, hein, retenez bien ce numéro.
Si tu danses le reggae, si tu penses le reggae, balance reggae, sans défense reggae, c'est spécial reggae, infernal reggae, ça commence à cogner comme un cœur régulier. When and where I go, but it is so hard to feel my kids, but it is so hard to stand the ghetto. Tout le monde danse, te traîne, tout le monde fume et tu bois. Downtown, ça enchaîne. Dans les rambas en bois. Quand ça cause le reggae, ça explose reggae. C'est la soul reggae qui déboule reggae. So hard to feed my kids, but it is so hard to stand the ghetto. Elle est noire et dorée, elle est belle à crever. Regarde-la marcher et danser. Son reggae fait trop chaud pour chanter, fait trop soif pour noter, trop beau pour t'expliquer ce qui se passe dans le reggae.
Bernard Lévillier, bien sûr, dans cette tête au carré dossier cellules souches avec Annelise Benasseur et Marc Péchanski, vos messages franceinter.fr, les cellules souches embryonnaires, IPS adultes. On en a dit quelques mots tout à l'heure seulement à Nils Benacer. Mm-hmm. Qu'est-ce qui les distingue? Et puis, est-ce qu'on les trouve partout dans le corps humain ou pas?
Alors, effectivement, les cellules souches adultes, la grande distinction par rapport aux cellules embryonnaires, c'est que, comme disait Marc, les embryonnaires, elles sont là pour former les organes et les produire, et vraiment participer activement pendant les 9 mois de l'organe pour faire des organes. Les cellules adultes, ensuite, se retrouvent dans tous les organes, qu'elles soient à renouvellement rapide ou pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on pensait que c'était que dans les tissus qui se renouvellent rapidement. Votre peau, par exemple, tous les mois, vous changez de votre peau. Donc, il y a une cellule souche de la peau qui régénère votre peau. On les retrouve partout. Elles sont dans des endroits particulières. Elles sont souvent dans des endroits nichés dans un endroit pour rester en dormance. Contrairement aux cellules embryonnaires qui prolifèrent, celles-ci, elles dorment parce que vous avez un stock bien défini. Et qu'en aucune façon, il faut puiser sur ce stock, puisque vous avez un nombre bien défini, et que vous avez 90 ans à vivre, 100 ans à vivre, voilà.
Donc on a un capital au départ.
Un capital de départ qu'il va falloir bien préserver, et c'est la raison pour laquelle elles se mettent dans des endroits bien particuliers, par exemple, dans la moelle osseuse, elles se mettent à côté de l'os, nichées vers l'os, et c'est de ce compartiment, elles se mettent en veille et en dormance. Par contre, il y en a certaines qui vont parfois se circuler.
Oui.
Et donc, maintenant, on distingue des cellules souches qui circulent, comme les cellules hématopoïétiques qu'on peut retrouver dans le sang et qui peuvent être mobilisées, et celles qui restent réellement en dormance pendant très longtemps.
Qu'est-ce qui fait qu'elles se réveillent alors un jour, ces cellules adultes?
Alors, c'est justement quand on fait une greffe de moelle osseuse et qu'on fait une irradiation corporelle totale ou détruire le tissu hématopoïétique quand on veut faire une greffe, c'est là où elle peut se réveiller. Malheureusement, elle met un temps à se réveiller. Et on peut pas se permettre ceci. Donc aujourd'hui, il faut faire une greffe de moelle. C'est une manière la mettre en cycle. Il faut un choc majeur. Dans la réalité, ça montre bien que tout est fait pour qu'elle se mette pas en cycle. Hein,
Marc Péchanski, quel âge a une cellule adulte justement par rapport à une cellule embryonnaire dans le stade du développement?
Alors, des cellules adultes, il y en a des quantités. Je crois que ce qui est important, c'est de compter le nombre de fois où cette cellule s'est multipliée. Parce que on sait depuis très longtemps, plus de 60 ans maintenant, que les cellules ont un nombre de cycles de prolifération limité. C'est ce qu'on appelle la limite de Hayflick, parce qu'il y avait un chercheur américain qui s'appelait Hayflick, et qui a calculé très précisément, et qui a dit, une cellule, un fibroblaste, parce que c'était là-dessus qu'il travaillait, ça peut se multiplier 50 fois, ce qui fait déjà beaucoup de cellules, ça peut se multiplier 50 fois, mais au bout de 50 fois, il va rentrer en sénescence. Il va vieillir et puis il n'arrivera plus à se multiplier. Et cette limite de Hayflick, en réalité, elle s'applique pratiquement à toutes nos cellules. Sauf aux cellules souches embryonnaires.
Christophe sur Twitter demande la révision de loi de bioéthique de 2013. Est-ce qu'elle permet vraiment de faire correctement aujourd'hui des recherches sur les cellules souches embryonnaires? Il faut bien articuler pour le dire.
Oui, alors déjà, il faut tranquilliser un peu nos auditeurs. Depuis 2005 et la première révision de la loi de bioéthique, même si la loi nous interdisait de travailler sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, nous pouvions avoir des dérogations.
C'est ça.
Et ces dérogations étaient accordées par une agence qui est l'Agence de la biomédecine, qui a très bien fait son travail pendant des années, qui encadrait nos travaux, qui nous demandait de justifier nos programmes de recherche et qui ensuite faisait des inspections pour vérifier, ce qui s'est toujours bien passé, que tout allait bien. Et la loi de 2013, donc le changement de la loi, a simplement inversé la chose, c'est-à-dire qu'au lieu d'être interdit mais possible par dérogation, c'est devenu autorisé, mais l'encadrement est resté le même. Et donc, on est face à l'Agence de la biomédecine, ou plutôt avec l'Agence de la biomédecine, parce que c'est un lien qu'on a appris à cultiver depuis des années, pour leur expliquer ce qu'on fait et le faire dans le cadre de la loi.
Annelise Benacer, Viron demande, est-ce qu'on peut utiliser ces cellules souches pour les maladies neurodégénératives? Parkinson, Alzheimer par exemple?
Oui, alors aujourd'hui, elles servent essentiellement à étudier les maladies génétiques dégénératives. Et je pense que donc c'est un gros travail qui a été fait par Einstein. Par exemple, la maladie de Huntington. Je pense que Marc peut aussi exposer les travaux récents qui ont été issus de son équipe.
Oui, je crois qu'effectivement, sur les maladies neurodégénératives, il y a eu des avancées dans deux directions. La thérapie cellulaire pour les maladies neurodégénératives concerne on peut dire uniquement la maladie de Parkinson, qui est très connue, la maladie de Huntington, qui est une maladie génétique. Mmh. Et aujourd'hui, il y a très peu de scientifiques qui pensent qu'on va pouvoir étendre ça, par exemple, à la maladie Alzheimer, pour des raisons simples, c'est que dans la maladie Alzheimer, il y a une atteinte qui est très diffuse, qui concerne tout un tas de populations cellulaires, et que du coup, ça va être difficile d'introduire une cellule dans le cerveau qui pourra réparer tout ça, alors que Parkinson, c'est les neurones qui produisent la dopamine. Donc, si on les remplace, on a des chances d'améliorer assez nettement les patients. Et pour Huntington, c'est d'autres neurones, mais c'est le même principe. Ensuite, il y a effectivement beaucoup de recherches sur des maladies, en particulier des maladies génétiques, qui aboutissent à des désordres neurodégénératifs, parce que là, les cellules souches embryonnaires ou les cellules iPS nous permettent en laboratoire d'étudier les mécanismes des maladies et puis d'essayer de les combattre avec des médicaments, pas avec des thérapies cellulaires ou autres, mais avec vraiment des médicaments.
Ça, c'est l'enjeu aussi, hein, la fabrication de ces médicaments, évidemment, aujourd'hui.
C'est un enjeu majeur parce que, avec les cellules iPS, nous avons accès, par définition, à tous les patients dont nous pouvons prélever quelques cellules et les transformer en outils biologiques pour aller étudier ça en laboratoire.
À l'ISTEM, vous travaillez sur quoi concrètement aujourd'hui dans le domaine du médicament ?
Alors, à ISTEM, on travaille sur presque une quinzaine de maladies, évidemment des myopathies, comme la maladie de Duchenne, comme la myotonie dystrophique, la maladie de Steiner, mais également des maladies de la peau, comme l'épidermolyse bulleuse, des maladies du système nerveux, comme la maladie de Huntington, ou des maladies plus générales, comme le syndrome de Wolfram, qui est une maladie qui associe un diabète, une perte de la vue, une perte de l'audition. Il y a un certain nombre de pathologies comme ça. Ou Progeria. Progeria qui est
le vieillissement accéléré. Gérard dit, quand mes enfants sont nés en Australie, l'hôpital nous a proposé de conserver des cellules souches du cordon ombilical pour la modique somme de 3 000 $. Qu'est-ce que ces cellules souches ont de plus que les autres ? Demande Gérard. Anis Benasseur, pour terminer.
Oui, alors ces cellules du sang de cordon sont spécialisées à faire du sang, des cellules du sang. Et elles n'ont quasiment que ce rôle-là. C'est-à-dire qu'elles sont très enrichies avant qu'elles topent. Finalement, elles circulent, comme je vous ai dit, une cellule hématopoïétique, et une des rares capables de migrer. Et au moment de la naissance, on en a dans le cordon avant qu'elles ne partent dans la moelle osseuse. Donc c'est une façon de les conserver, mais c'est dans un domaine thérapeutique très particulier. C'est pour justement les utiliser pour faire une greffe dans le cancer.
Voilà. Mais il y a un vrai business, Marc Kachansky aussi.
Malheureusement, il y a un business dans certains pays, parce que en France, c'est interdit, non pas de prendre le sang de cordon. Le sang de cordon, tout à fait, c'est un don, et c'est un don qui sert d'une façon générale à des gens qui, des enfants qui ont une leucémie. Là, les 3 000 $, c'est du business, je dirais. Bon, complètement.
Vaut mieux les mettre pour le Téléthon, par exemple.
Absolument. Je crois ça servira plus.
36-37 pour faire vos dons. C'est le week-end du Téléthon. C'est extrêmement important, bien sûr. C'est le Téléthon, l'AFM d'ailleurs, qui a financé l'ISTEM, dont vous fêtez les 10 ans, là, cette année. Merci beaucoup, Marc Péchanski, Anis Benasseur, pour votre venue et pour nous parler de ces cellules souches. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour, Mathieu Vidard.
Affaire sensible. Dans quelques minutes, le thème aujourd'hui, Fabrice.
L'affaire Caroline Dickinson, du nom de cette adolescente anglaise de 13 ans, retrouvée morte et violée le 18 juillet 1996 en Bretagne. Et notre invité, ce sera le juge Renaud Van Ruynbeck, qu'évidemment vous connaissez, et qui a instruit cette affaire.
Pas à titre personnel.
Non, mais merci. Que tout le monde connaît.
À tout à l'heure.